maintenant plus de 4 années. Les urgences ferment régulièrement. On n'en peut plus, c'est affligeant de nous voir si peu considérés. Du sud de l'Orne aux Mars bretonnes, l'hôpital couvre un territoire de plus de 100 000 personnes qui ont besoin et droit de croire. Un accès aux soins partout.
Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans Urgence Santé, une émission coproduite par C2L Radio et Radio Fréquence Paris Pluriel. Une émission de la Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité. Pour parler santé, j'ai Guillaume et Magali avec moi. Bonjour.
Bonjour Patrice. La Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité, c'est une association pluraliste qui regroupe des citoyens, des usagers, des élus, des professionnels de la santé dans des collectifs locaux ou départementaux. Et ces collectifs militent pour un égal accès de toutes et tous à la prévention, la santé, aux soins, sans frein d'aucune sorte, qu'ils soient financiers, géographiques, culturels, de genre ou bien d'origine. Elle regroupe aujourd'hui environ 70 comités qui sont répartis dans toute la France, dont certains seront au micro tout à l'heure. Dans la diversité de ces comités, le but de notre coordination est d'agir pour apporter une réponse de qualité aux besoins de santé des habitants, maintenir et améliorer les structures hospitalières de proximité et organiser et installer dans nos territoires un maillage de soins de premier recours qui permettent à tous les habitants d'être correctement soignés. On sait aujourd'hui les difficultés d'une partie grandissante de la population à se faire soigner, que ce soit à l'hôpital ou en médecine de ville. Et donc pour nous, il s'agit évidemment d'un jeu et d'une action très importante. Et puis notre coordination mène une réflexion collective sur les politiques de santé, également sur les stratégies à mener pour lutter contre les déserts médicaux, le dépérissement de nos hôpitaux publics, mais aussi l'affaiblissement de notre système de sécurité sociale. Notre rôle, c'est d'interpeller les autorités politiques et administratives qui décident le plus souvent en fonction d'impératifs budgétaires et ne prennent pas suffisamment en compte les besoins de la population. Enfin, nous essayons de construire des convergences avec des organisations qui militent dans cette même visée progressiste au service de notre bien commun qui est la santé.
Bonjour à toutes et à tous. En préambule, je vais vous donner quelques éléments de contexte. Vieillir est une réalité qui nous concerne toutes et tous, sans exception, c'est une évidence. Derrière les chiffres, il y a des visages, des parcours de vie, des parents, des grands-parents et des familles qui, un jour, se trouvent face à la perte d'autonomie d'un proche ou de leur propre personne. Aujourd'hui en France, entre 2,5 et 2,7 millions de personnes ont plus de 85 ans. D'ici 2040, elles seront près de 5 millions. Et avec l'avancée en âge, la dépendance progresse. 670 000 personnes vivent actuellement une perte d'autonomie sévère. Et ce chiffre pourrait encore croître de 700 000 d'ici 2050. Concrètement, cela signifie que des milliers de familles sont confrontées à des choix difficiles. Maintien à domicile, recherche d'une place en établissement, assumer un reste à charge souvent élevé, ou tout simplement chercher des solutions qui n'existent pas encore. Car notre système est à bout de souffle. La France compte près de 7500 EHPAD, dont les deux tiers sont en déficit. L'établissement public, qui accueille pourtant les personnes les plus vulnérables, sont particulièrement touchés, avec près de 2 milliards d'euros de pertes cumulées entre 2022 et 2024. Et pendant que les besoins s'accroissent, les places manquent. Il en faudrait 365 000 supplémentaires dans les 20 prochaines années. Pour les familles, la réalité se traduit aussi en inégalités très concrètes. Dans le secteur privé, généralement plus coûteux, seulement 13,6% des places sont accessibles à l'aide sociale contre 96% dans le public. Autrement dit, selon ses moyens, on n'a tout simplement pas les mêmes chances d'accompagner dignement un proche, et cela est inadmissible. À domicile, la situation n'est guère plus rassurante. Un tiers des associations d'aide à la personne est aujourd'hui en difficulté financière. Et il y a surtout celles et ceux dont on parle trop peu, les 8,3 millions d'aidants, qui soutiennent chaque jour un patient, un parent, un conjoint, parfois au prix de leur propre santé ou de leur vie professionnelle. Du côté des politiques publiques, les réponses peinent à être à la hauteur de l'urgence. La branche dédiée à l'autonomie reste sous-financée. Le service public se limite souvent à orienter vers des dispositifs déjà existants, sans véritablement les renforcer ni les repenser. Et selon le territoire où l'on vit, les aides peuvent fortement varier. Quant au grand plan national sur le vieillissement, annoncé depuis plusieurs années, il n'a toujours pas vu le jour. Alors, la question qui se pose aujourd'hui n'est pas seulement celle des maisons de retraite. Elle est plus large, plus profonde et nous touche toutes et toutes. Comment garantir concrètement les principes de liberté, d'égalité et de fraternité qui font notre République ? Comment voulons-nous accompagner nos aînés ? Avec quels moyens, quelles priorités et quelle place pour l'humain ? C'est ce que nous allons explorer à travers les témoignages qui vont suivre.
Nous allons donner la parole à nos amis d'Audace 53. Alors Audace est une association citoyenne qui défend les intérêts des usagers des services de santé publique dans le département de la Mayenne. Voilà, une association qui s'est créée en 2016 pour défendre au départ l'existence et la pérennité du centre hospitalier de Nord-Mayenne avant de s'intéresser à tous les sujets en relation avec la santé publique, la désertification médicale, l'autonomie et la dépendance des personnes âgées et handicapées.
Bonjour Pascal Grandet, vous êtes président de l'association Audace 53 qui a son siège à Mayenne. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association ?
Alors cette association Audace 53 est une association d'usagers qui s'est construite il y a presque 10 ans à Mayenne à la suite des premières difficultés financières que rencontrait l'hôpital de Mayenne. Mayenne, c'est une petite ville de 13 500 habitants avec un hôpital qui offre pour l'instant tous les services mais qui voyait son activité menacée du fait des difficultés financières qu'il rencontrait. Donc cette association s'est construite avec des Mayennais, entre guillemets, de base, qui ne sont pour beaucoup pas du tout parmi le monde des soignants, mais des citoyens qui avaient à cœur de préserver cet hôpital. Et puis très vite, on s'est rendu compte que il y avait deux autres secteurs qui étaient très en difficulté également sur le plan de la santé. C'est le secteur de la médecine dite de ville, médecine libérale pour la plupart, et puis aussi le secteur de l'accompagnement du vieillissement, c'est-à-dire des EHPAD, mais même au-delà, qui était aussi un problème tout à fait important qu'il convenait de traiter et de surveiller. Voilà. Donc depuis 10 ans, cette association veille au grain dans ces trois domaines.
Très bien. Et vous, Loïc Jabotot, vous êtes représentant des usagers dans plusieurs hôpitaux du Nord-Mayenne. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre rôle ? En quoi consiste-t-il ? Ouais.
Alors moi, je suis représentant des usagers depuis 8 ans au sein de 4 hôpitaux mayennais et membre du conseil territorial de santé au niveau départemental. Ce qui m'a intéressé, moi, au niveau de l'association, c'est qu'au démarrage, notre EHPAD sur notre commune était en difficulté, car le conseil départemental avait décidé de fermer 3 EHPAD du secteur de 35 résidents pour des raisons, en fin de compte, certaines c'était financières, certaines c'était de sécurité et certaines, en fin de compte, le but principal c'était refaire des structures plus importantes et supprimer ces petites structures. Ce qui était dommageable au niveau des communes, car de notre commune en principal, car ce sont des résidents sur les 35, il y en avait 80% qui étaient résidents de la commune. Mmh. Et ce qui fait qu'en fin de compte, quand les délocalisant, eh bien en fin de compte, ils allaient avoir moins de visites, de proches, puisque la proximité n'était plus là. Voilà ce qui m'a donné l'idée d'adhérer avec Audace 53 pour défendre nos EHPAD.
Oui, Loïc parlait de la petite commune de Ouasseau, qui est une petite commune au nord de Mayenne, mais en Mayenne, comme dans l'ensemble du pays, on a une population, tout le monde le sait, qui vieillit et qui nécessite encore plus de besoins, qui a plus de besoins, que ce soit sur le plan médical ou sur le plan de l'accompagnement du vieillissement. On a besoin de structures d'accueil. Alors bien sûr, ce qui est très à la mode en ce moment, ce qui est seriné partout dans les médias, c'est favoriser le maintien à domicile. Bien évidemment, on est favorable au maintien à domicile. Et tant que c'est possible, il faut tout faire, il faut engager des moyens, former, engager des personnels pour que cet accompagnement à domicile soit le mieux possible, se passe dans les meilleures conditions. Cela dit, il arrive un moment avec une population qui vieillit, plus de 85, plus de 90 ans, où l'accompagnement à domicile n'est plus possible et où il faut des structures. Donc nous, on est à fond sur la défense des petites structures d'EHPAD, parce que c'est quelque chose, ce sont des structures dont on va avoir besoin. On y reviendra tout à l'heure, mais une population qui vieillit, va nécessiter un engagement financier énorme de la part de l'État. Et si cet engagement n'est pas au rendez-vous dans les 15 prochaines années, on court à la catastrophe.
Et justement, Loïc Jamoto, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, de l'accueil des personnes âgées dans les établissements dans lesquels vous intervenez en tant que représentant des usagers ?
La plus grande difficulté qu'il y a dans l'accueil des personnes âgées, c'est le manque de personnel pour bien accueillir ces personnes âgées comme vient de le rappeler Pascal, sont âgées. Ça fait plus de 85 ans. Et la durée dans un EHPAD, c'est 18 mois à 2 ans. Vous voyez que ces structures-là, il faut absolument qu'il y ait du personnel pour bien accompagner nos personnes âgées.
Justement, Pascal Grandet, en tant que membre du conseil de surveillance du centre hospitalier du Nord-Mayenne, est-ce que vous pouvez nous évoquer les difficultés rencontrées dans l'accueil des personnes âgées ?
L'hôpital de Mayenne, comme je le disais tout à l'heure, c'est un petit hôpital, mais c'est un hôpital quand même d'une certaine importance, environ 600 lits, presque 600 lits et presque 1200 personnels tout confondu. Donc c'est une petite structure par rapport à un CHU, mais c'est quand même un hôpital de taille importante. Et dans cet hôpital, rattaché à cet hôpital, il y a un EHPAD, mais qui est, pour des raisons de locaux, partagé en 3 sites sur l'hôpital de Mayenne. Avec des locaux vieillissants, des locaux qui ne sont pas adaptés, parfois qui sont même à la limite de ce qui est acceptable, parce que c'est pas parce qu'on est âgé qu'on est obligatoirement traité de façon inconvenante. Et il y avait véritablement besoin d'une nouvelle structure pour accueillir les personnes âgées. Les difficultés, elles sont liées au financement, bien évidemment, puisque pour construire un EHPAD, à l'heure actuelle, on est à peu près au tarif de 110-120 000 € par personne. Parfois, ça dépasse, on parle même de 140 000. Donc vous voyez, un hôpital de 100 résidents, c'est 14 millions d'euros. L'EHPAD de Mayenne, tout compris, c'est environ 130-135.
Je ne comprends pas, c'est l'investissement de départ ou c'est le coût annuel ?
Non, c'est le coût de construction. Le coût de construction. Pour construire un établissement de 100 qui est prévu pour 100 résidents, le coût de construction, il faut prendre 100 résidents et multiplier par entre 110 et 140 000 euros par résident. Ce qui veut dire un établissement de 100 résidents, c'est environ 13 à 14 millions d'euros. Mayenne, on approche les 150 résidents, les 150 places, donc ça veut dire entre 17 et 20 millions d'euros. Oui. Donc on ne trouve pas ça sous le sabot d'un cheval. Et un établissement comme Mayenne, qui a la chance d'avoir des locaux neufs, puisque l'hôpital de Mayenne date de 2009-2013, le revers de la médaille, c'est qu'il est fortement endetté et qu'il est dans l'incapacité de financer la construction d'un EHPAD, d'un établissement neuf. Donc, il y a des solutions qui ont été envisagées. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la bonne nouvelle, c'est que un établissement neuf d'EHPAD va sortir normalement de terre et va être opérationnel pour le premier semestre 2028.
Voilà. Les choses avancent donc.
Ah oui, les choses avancent.
En Mayenne, nous avons 4350 places d'EHPAD. Donc c'est un coût important et que, en fin de compte, là il y a des structures, il y a beaucoup de structures qui refont les EHPAD, qui rénovent en mettant, comme je le disais en préambule, c'est qu'en fin de compte on ferme les petits pour en faire des plus gros, mais ça a un coût. Et le coût qui était estimé en 2019, c'était 200 millions pour le département. Donc, vous voyez que le coût est énorme. Et pour autant, eh bien, il faut passer par cette démarche-là pour pouvoir aussi que nos personnes âgées puissent au moins vivre la fin de leur vie sereinement.
Et pour la ville de Mayenne, donc un établissement neuf, Pascal Grandet, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le sujet ?
Une des premières bagarres que l'on a menées au sein de ce conseil de surveillance, ça a été justement pour la construction de cet EHPAD neuf. On nous disait à l'époque, il n'y a pas d'argent, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'hôpital est très endetté, on n'a pas les moyens d'autofinancer la construction d'un établissement neuf. Bien évidemment, on peut comprendre qu'une somme de 16, 17, voire 20 millions d'euros, un établissement qui est endetté, ça semble difficile. Cela dit, la santé, c'est pas une marchandise, et quand il y a des besoins, l'État, doivent être en capacité de se donner les moyens de répondre aux besoins.
T'as voulu voir Château, alors t'as vu Château. T'as voulu voir Laval, alors t'as vu Laval. T'as voulu voir Mayenne, c'était déjà fermé. T'as voulu voir, la veille avait plus d'infirmiers. T'as voulu Mayenne, t'es retourné à Château. T'as voulu voir Château, c'était déjà le chaos à Château. Quand t'as été reçu, alors t'as attendu. T'as attendu, t'as attendu, t'as attendu. On t'a dit, c'est pas là, faut retourner là-bas. C'est ouvert à Mayenne, mais y'a plus de lit d'aval. Retournez à Laval, ce n'est pas une antenne. Ou revenez à Château, ce sera plus rigolo à Château. Mais je te le dis, j'irai pas dans un CHU, mais je préviens, je veux retourner dans mon lit. D'ailleurs, j'ai horreur de tourner en rond. L'ambulance est à sec, j'ai 24 de tension. Ils ont fermé des lits, on peut plus accueillir. Ils ont fermé des lits, vont nous laisser mourir. On a besoin d'urgence 24 heures sur 24. Pas seulement le dimanche quand on est sur une patte. Pas juste avant 20 heures quand on a mal au cœur. Pas juste quand ça arrange, malade à la bonne heure. Mais je te le dis, ça ne peut plus durer. Mais je te préviens, on en a jusque là. D'ailleurs, j'ai horreur de tous ces parangons qui savent mieux que personne ce qui pour nous est bon. T'as voulu voir Château, alors t'as vu Château. T'as voulu voir Laval, alors t'as vu Laval. T'as voulu voir Mayenne, c'était déjà fermé. T'as voulu voir Laval, y avait plus d'infirmières. T'as voulu Mayenne, t'es retourné à Château. T'as voulu voir Château, c'était déjà le chaos à Château. Quand t'as été reçu, alors t'as attendu, t'as attendu, t'as attendu, t'as attendu. On t'a dit, c'est pas là, faut retourner là-bas. C'est d'ouvert à Mayenne, mais y'a plus de lit d'aval. Retournez à Laval, ce n'est pas une antenne. Ou revenez à Château, ce sera plus rigolo à Château.
Nous sommes toujours avec nos auditeurs dans l'émission Urgence Santé. Nous allons enchaîner sur la suite de notre interview avec le comité de Mayenne pour aborder plus spécifiquement les questions de financement.
Il faut dire très rapidement comment fonctionne financièrement un EHPAD. Un EHPAD, il y a trois parties, il y a trois intervenants. Il y a la partie médicale qui relève de la Sécu, il y a la partie hébergement.
Oui. Du conseil départemental.
Qui relève du conseil départemental. Et puis, il y a la partie,
séjour,
etc., qui relève du résident eux-mêmes. Et le problème que soulevait Loïc, c'est que pendant longtemps, le conseil départemental a bloqué le prix de journée, c'est-à-dire que les résidents, la part résident ne pouvait pas excéder une soixantaine d'euros, et que ça a complètement obéré les finances des établissements. Mais pour en revenir à l'hôpital de Mayenne et à cette construction de l'EHPAD, du nouvel établissement, dont on est déjà un peu fier avant même qu'il soit sorti de terre, on espère qu'il sera conforme à nos souhaits, mais ça a été une bagarre, puisque je disais tout à l'heure que lorsque nous avons posé la question de la construction de cette EHPAD il y a environ 5 à 6 ans, on nous a tout de suite dit qu'il n'y avait pas d'argent. Et puis devant notre insistance, des solutions ont été recherchées, et quand on cherche, on trouve. Mais on ne trouve pas forcément tout de suite les bonnes solutions. Et on nous a proposé un premier projet il y a 3 ans et demi, 4 ans, qui consistait à mettre en place un GCSMS, un groupe de coopération sanitaire et médico-sociale. C'est un mot un peu barbare, qui est une entité qui fait travailler ensemble une entité publique et une entité privée. Hein. Bon, pour être un peu caustique, on sait que quand le privé travaille avec le public, c'est pas forcément au bénéfice du public. Mais cela dit, là, on nous a présenté ça comme la seule solution pour financer la construction d'un établissement neuf. Nous, inutile de vous dire que dès le début, ça nous a fait un peu tiquer, dans la mesure où, pour s'être renseigné sur ce qu'était un GCSMS, on s'est aperçu que selon la proportion de participation de chacun, si le privé était majoritaire dans l'établissement, l'établissement était considéré comme privé. Si le public était majoritaire, l'établissement était considéré comme public. Ce qui est public-privé, ça a des incidences énormes sur le personnel, d'abord sur le statut du personnel qui passe de fonctionnaire ou de détaché à personnel du privé avec les avantages et les salaires qui ne sont pas forcément les mêmes, et puis des incidences sur le prix de journée pour les résidents qui échappent complètement au contrôle de l'hôpital lui-même. Donc on a posé la question dès le départ en disant mais attention, dans quelle proportion cette entité extérieure qui se présente comme une association mais dont on s'est vite rendu compte que son activité principale c'était de s'insinuer dans les associations ou les entités publiques en difficulté pour en prendre très vite le contrôle. Donc notre préoccupation c'était que justement ce privé reste minoritaire et donc qui reste à 49% dans le CCSMS.
Mais quel pouvait être leur intérêt à ce moment-là?
Alors la question, bien évidemment, c'était évidemment de se demander pourquoi un groupe privé, même s'il est à but non lucratif, puisque sur le papier c'est une association, mais quel était son intérêt dans ces conditions-là? Et au moment de la signature, heureusement, la directrice de l'établissement a levé son crayon et n'a pas signé parce qu'elle s'est aperçue que, alors que on devait être à 49-51 au bénéfice du public, le groupe SOS, puisque c'est lui dont il s'agit, avait changé, inversé et devenait majoritaire ou prétendait de devenir. Donc il y a eu un vote en conseil de surveillance qui a amené à, alors qu'une majorité du conseil de surveillance dans un premier temps allait plutôt dans le sens de la directrice parce que il y avait besoin d'un établissement et qu'il fallait bien faire des concessions, etc. Nous n'étions que quelques-uns à freiner et à dire attention. En fait, ce jour-là, quand finalement le groupe SOS lui-même a fait la démonstration de ce qu'on disait, de ce qu'on craignait les mois précédents, l'ensemble du conseil de surveillance s'est levé pour repousser cette possibilité, ce qui a mis le groupe SOS très en colère. Le groupe SOS, il y a eu un article il y a 3 ou 4 ans dans Le Monde Diplomatique, et Le Monde Diplomatique parlait de l'ogre qui dévore le monde associatif. Je pense que ça résume bien ce que c'est, mais il faut savoir que sur le plan des EHPAD, sur le plan de l'accompagnement du vieillissement, il y a une manne financière pour ceux qui veulent faire de l'argent qui est colossale, parce que justement le nombre de vieux ne va que croître.
Et plus qui est appelé à augmenter.
Voilà.
Mais du coup, comment vous avez trouvé le financement les 49% du privé qui
alors, manquait, pour le coup. Il y a eu un autre montage qui a été fait avec une entité publique, cette fois, qui s'appelle Médoine Habitat, qui est une entité publique. Donc déjà, c'est plus privé-public, c'est public-public. Et un montage financier qui a été fait, qui fait que l'hôpital va payer pendant un certain nombre d'années, je crois une trentaine d'années, un loyer à cette entité, et que au bout du compte, l'hôpital redeviendra entièrement propriétaire des locaux, et le personnel, l'établissement au niveau de la direction, au niveau des décisions qu'il y a à prendre, reste entièrement public, et le personnel, évidemment, garde son statut de fonctionnaire d'État.
Loïc, vous avez quelque chose à ajouter à ce sujet brûlant ?
Ce que vient de dire Pascal, c'est tout à fait juste. Et puis, ce qu'il y a, c'est que nous, en tant que représentants associatifs, bon, nous avons l'avantage que là, on peut participer au conseil de surveillance, puisque les EHPAD sont jumelés avec les hôpitaux. Donc, de ce fait, on participe au conseil de surveillance, et là, on a des informations. Mais la difficulté, c'est pour les EHPAD qui sont sous conseil d'administration, et là, les déficits sont là, mais les représentants, il n'y a pas de représentants, il y a des représentants de personnes, mais qui ne sont pas formés à
représentants des familles, mais représentants des usagers.
Représentants des familles, et bien sûr, mais qui ne sont pas formés aux démarches financières. Mm-hmm. Et ce qu'on s'aperçoit dans certains EHPAD, c'est qu'en fin de compte, il y avait un déficit structurant depuis X années, et que personne n'a rien dit. Et c'est à la fin, quand on arrive au bout du bout, que le déficit est trop important, il est trop tard, eh bien, la solution, quand vous êtes un EHPAD de 35 résidents, eh bien, on se dit comme ça, on va trouver une structure plus importante pour le faire. Oui. C'est pour ça soyons tous vigilants là-dessus.
C'est comme ça que les petits se font manger par les gros.
Voilà, exactement.
Pascal, un dernier mot ?
Ben pour conclure, nous, on est très attachés à ce problème des EHPAD et de l'accompagnement du vieillissement, c'est-à-dire que ça va au-delà des problèmes des EHPAD. Il faut savoir que le monde de la santé, en général, et en particulier des EHPAD, de l'accompagnement du vieillissement, devrait être complètement en dehors du marché. Mais malheureusement, on s'aperçoit que les sommes colossales qui sont en jeu aiguisent certains appétits, et qu'on a beaucoup de mal à voir comment les choses vont se mettre en place dans les prochaines années. Il n'y a pas pour l'instant de véritable loi grand âge. On nous la promet depuis Sarkozy, on parle de la grand âge, hein. C'est-à-dire les années 2010, on est en 2026, il n'y a pas de loi grand âge. Pourtant, les chiffres, ils sont accablants. Aujourd'hui, on a environ 9,4% de la population française qui a plus de 75 ans. Ce sont des chiffres INSEE, c'est-à-dire 5 à 7 millions de personnes. Le maintien à domicile ne peut pas correspondre à toutes les situations. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des cas où le vieillissement, même si la personne est globalement en bonne santé, mais ce vieillissement exige qu'elle soit dans une structure médicalisée. Sur les personnes de 85 ans, il y en a 5 à 600 000 qui sont aujourd'hui en EHPAD. Donc quand on nous dit qu'on veut fermer des structures, quand on nous dit qu'on ne peut pas construire suffisamment parce qu'il n'y a pas d'argent, dans 15 ans, on va se réveiller dans une situation qui deviendra ingérable. C'est pour ça que, pour ce qui est de notre association, on se bagarre avec nos petits moyens sur le local, mais on engage l'ensemble des associations, des comités qui s'intéressent à ces questions à le faire, parce que véritablement, c'est une question extrêmement importante et qui va nous envoyer dans le mur si des décisions ne sont pas prises.
Merci.
Nous allons maintenant partir avec le comité de Château-Thierry dans l'Aisne. Alors ce comité, qui s'intitule « Ma santé, j'y tiens, mon hôpital, mon bassin de vie, je soutiens », a été créé en 2023. Notre reportage concerne l'EHPAD Bellevue, qui dépend du centre hospitalier de Château-Thierry, un établissement de 160 places, mais qui compte seulement 140 places occupées environ, en raison notamment de sa vétusté qui le rend peu attractif pour les familles. Ce comité a appuyé un collectif de parents qui s'est créé en janvier 2025 pour s'opposer à une très forte augmentation des tarifs d'hébergement des résidents. Voilà, le comité et ce collectif d'usagers et de parents ont manifesté, distribué des tracts et interpellé le maire qui également est par ailleurs président du conseil de surveillance. Enfin, plus récemment, le comité s'est mobilisé autour de la dénonciation de plusieurs contrats CDD qui ont été rompus par l'établissement et qui n'ont pas été renouvelés.
Catherine Dauphémont, je suis la présidente de l'association Ma Santé J'y Tiens, mon hôpital, mon bassin de vie je soutiens, basé à Château-Thierry dans l'Aisne. Nos actions en vue de soutenir l'hôpital et d'aider la maison de retraite a porté ses fruits cette année. Et Claude, qui est un des
défenseurs de la maison de retraite Bellevue, hein, qui suite à l'augmentation de 21% de 431 euros par mois pour les résidents qui ne pouvaient pas supporter une telle augmentation quand on a 1000 euros de retraite, et comment peut-on supporter autant de chiffres dans cette maison de retraite, qui en plus est délabrée, qui n'avait plus de médecin, donc on se bat pour cette maison de retraite.
Donc avec ce collectif des usagers de la maison de retraite, nous avons fait des manifestations, des courriers, qui ont fait que de 21% d'augmentation, on est descendu à 13%. C'était un beau résultat.
C'est quand même 230 euros en plus quand même.
Mais il est vrai que cette maison est énormément dégradée et que le directeur de l'hôpital de Château-Thierry, dont dépend cette maison de retraite, n'est pas directeur proprement dit. Il est directeur par intérim et il a la direction d'une ville proche à 30 km qui s'appelle Soissons. Et bien sûr, il préfère privilégier son hôpital que le nôtre et ne demande aucun crédit et surtout ne fait rien pour améliorer les conditions et de vie des personnes âgées à la maison de retraite. Notre combat est difficile car ni les élus, ni la presse, ni les syndicats ne nous soutiennent, mais nous avons pour autant obtenu des résultats.
Jacques Raval, membre de l'association et ancien élu, et je suis avec les membres de l'association pour vraiment faire entendre la voix des personnes âgées et des malades, des patients. Par rapport à la maison de retraite, je pense qu'il faut féliciter l'association d'avoir déjà obtenu un premier succès. En 2025, on nous annonce une augmentation de 436 euros. Le combat est mené, ça dégringole à 270 euros. Et puis on nous dit, on a besoin de cet argent parce qu'il y a du déficit et on va engager des gros travaux. Eh bien, il ne s'est rien passé. Et en 2026, là, ce n'est pas encore notifié, mais on augmente seulement de 1 euro et tant mieux, quoi. Donc voilà, c'est bien la preuve qu'il faut qu'on soit plus nombreux à se mobiliser pour faire reculer à la fois l'État, mais aussi les collectivités locales et les élus par rapport à un souci de dignité pour les personnes âgées. On est dans un pays qui les respecte le passé, et particulièrement sur Château-Thierry.
Après ce déplacement dans l'Aisne, nous allons partir dans le département du Loiret, à Orléans, au sein du pôle personnes âgées du CHU, qui dispose de 3 EHPAD publics sous sa responsabilité. Un qui est situé à Orléans et 2 dans des communes voisines à Saran et Saint-Jean-de-Bray. Voilà, ces 3 établissements totalisent environ 530 lits, dont 144 lits de soins d'unité de long séjour et 16 lits d'unité d'hospitalisation renforcée. Les personnels du pôle personnes âgées sont aujourd'hui en grève en raison d'un projet de restructuration qui doit amener au licenciement de 25 agents et soignants. Et donc, nous étions à leur côté au moment de cette journée de mobilisation.
Bonjour, nous sommes lundi 30 mars devant l'EHPAD du Bois-Fleury à Saran, dans le Loiret. Un EHPAD qui, avec 2 autres, l'EHPAD des Écureuils et l'EHPAD Pierre Pagot, font partie du pôle personnes âgées du CHU d'Orléans. Et aujourd'hui, une action est initiée par les personnels et la CGT pour réclamer des moyens du coup sur l'EHPAD où de nouveaux projets de restructuration sont en cours liés à un déficit très important de l'établissement. Nous sommes avec Mathieu Gallois, maire de Saran, qui va nous dire quelques mots.
Oui, bah c'est D'abord, c'était important pour nous d'être ici. Je suis là en tant que maire de la ville. Je suis présent avec un certain nombre d'adjoints et conseillers municipaux de la majorité, puisque sur Saran, on a aussi un principe, c'est que la santé et l'accès aux soins est un droit. Et ça doit être une priorité. Et quand on a des structures, et notamment des personnels qui se plaignent et qui dénoncent aussi un manque de moyens pour fonctionner correctement, parce que derrière, il y a de l'humain, et de l'humain, ça doit être la priorité. Quand il y a déjà ce manque de moyens qui est alerté, quand il y a des risques aussi de suppression de postes, eh ben, il est de notre responsabilité, de notre devoir d'être à leur côté aujourd'hui pour réclamer justement les moyens suffisants pour s'occuper humainement des hommes, des femmes qui ont besoin justement de cet accompagnement aujourd'hui.
Aujourd'hui, la direction nous annonce de nouveaux projets présentés comme des perspectives positives, mais dans un flou total, visiblement déjà réfléchi sur leur mise en œuvre, leurs moyens réels et surtout sur l'avenir des postes. Dernièrement, la direction a envoyé un questionnaire aux équipes concernant leur éventuelle mobilité avec la possibilité d'un passage en 12 heures. Une impression de déjà-vu. Une réouverture du troisième étage au bâtiment A est également envisagée, sans prévoir une équipe pluridisciplinaire conséquente, avec des médecins, des cadres de santé et des paramédicaux. Et des locaux non conformes, ils sont actuellement vétustes. Le personnel refuse des réorganisations permanentes sans moyens supplémentaires et des projets construits sur le dos des agents. On ne peut pas parler de nouveaux projets quand les équipes n'en ont déjà plus les moyens d'assurer sereinement leur mission quotidienne. La santé et les résidents ne doivent pas être traités comme des marchandises. La CGT du CHU refuse que les agents et les résidents soient une nouvelle fois les victimes de choix budgétaires. Nous exigeons des moyens humains à hauteur des besoins réels, l'arrêt des pressions institutionnelles sur les agents et une politique de financement garantissant des conditions de travail dignes et des soins de qualité. Merci et tous ensemble!
Bonjour Dorine, tu es déléguée syndicale au pôle personnes âgées du CHRO d'Orléans. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la lutte qui s'organise aujourd'hui?
Alors, la lutte, elle s'organise aujourd'hui parce que les conditions de travail sont de plus en plus délétères et depuis des années, et parce que les équipes sont à bout, parce qu'on vient de leur annoncer qu'ils allaient supprimer des postes aides-soignantes par faute de budget. On sait que déjà, le budget du CHU est déjà catastrophique. Donc là, je pense que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les équipes.
Bonjour, Passini Enzo, du coup, infirmier sur les pattes du Bois Fleuri et syndiqué CGT depuis quelques mois. Donc aujourd'hui, en fait, je fais cette interview pour vous expliquer la situation à l'heure actuelle sur le pôle personnes âgées. Donc à l'heure du jour, on se retrouve du coup avec de la suppression de postes aides-soignants à hauteur de 25 postes aides-soignants, ce qui va du coup aggraver la situation qui est déjà, je trouve, selon moi, très précaire vis-à-vis du coup de la surcharge de travail, des sous-effectifs constants, avec notamment du remplacement, de l'auto-remplacement vis-à-vis des collègues, avec par exemple du rappel sur des jours de repos, des vacances qui sont décalées, voilà. Nous là sur le plan soignant, du coup ça augmente la charge de travail, on reçoit du public de plus en plus complexe, avec des troubles cognitifs de plus en plus extrême, voilà. On est sur une population en plus qui est vieillissante, donc ce qui rajoute du travail supplémentaire sur nos quotidiens. Et du coup, là, les informations que l'on a reçues concernant les suppressions de postes, ça a créé du coup un état anxiogène sur les agents, parce qu'on ne sait pas du tout sur quel pied danser, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, quelles vont être les nouvelles organisations, quelles vont être les conséquences après sur le quotidien de nos résidents, sachant que déjà les soins sont disons de, je dirais pas moins bonne qualité quand même, mais sont quand même déjà impactés vis-à-vis du sous-effectif. Donc là en fait on a un petit peu peur sur ce qui va se passer à l'avenir.
Bonjour, je suis là à deux titres. Je fais partie du collectif des usagers de la santé de l'Est Loiret. Et je suis venue pour soutenir des équipes qui souffrent dans les EHPAD gérées par le CHU d'Orléans. Je suis aussi accompagnante d'une personne âgée à l'EHPAD du Bois-Fleury et je constate les sous-effectifs et la charge de travail du personnel auprès des résidents qui, pour la plupart, sont de plus en plus dépendants au fil du temps. Les arrêts de travail sont en hausse et le recours au personnel de remplacement, donc qui n'ont pas l'habitude des résidents, et perturbe les résidents âgés qui supportent mal les changements d'habitude. En tant qu'accompagnatrice, je constate une difficulté d'échange entre les accompagnants et le personnel médical. Les résidents ne pouvant plus transmettre à leur famille les infos données par les soignants. Par contre, l'EHPAD du Bois-Fleury a des locaux agréables.
Un jour, les politiques ont voulu faire du fric
sur la santé des gens, certains sont nos patients. Comment peut-on s'y prendre pour enfin se faire entendre? On va vous raconter ce qui se passe au CHV. Chez nous sur les urgences, au lieu de maltraitance, des heures sur un brancard, tiens voilà une escarre. Nous on fait tout ce qu'on peut, on veut prendre soin d'eux, mais plus le temps de rien et on n'a plus de moyens. Ici se joue un drame et là on sonne l'alarme. Ça nous fait mal au cœur mais on bosse dans la peur. Débloquer des crédits, ne fermer plus les lits, conserver tous nos postes, assurer nous des stocks. Dans le couloir des urgences, tellement on a de brancards. Défaut de surveillance, pour se morcer trop tard. Le fruit de décisions prises sans concertation, auprès de nos bonnes pommes, et là tout qui déconne. Le soin, notre vocation, devenu des illusions. On ne sait plus quoi leur dire et c'est devenu de pire en pire. Si t'as envie de pisser, faut pas être pressé. Si t'as envie de manger, mieux vaut pas y penser. Oups, la mémé Huguet, qu'en a jusqu'aux chaussettes. Et là-bas, monsieur Lafleur, qui se tord de douleur. On veut plus de matériel, adapté à ce bordel. Des draps, des couvertures, des bouteilles d'oxygène. Et des médicaments, en nombre suffisant. Un peu plus qu'une salade à donner aux malades. Ils coupent tous nos moyens, ils disent ça ira bien. Attention, y a urgence, c'est fou, ça se passe en France. Nos médecins n'en peuvent plus, c'est simple, on n'en trouve plus. Prendre soin des patients, c'est pouvoir prendre le temps de leur tenir la main, de leur mettre un bassin. Rassurer les familles, putain, sont des humains. On manque de personnel, d'une prise en charge humaine. Plus le temps de les écouter, pas moyen de bien soigner. Entendez notre peine, ce boulot c'est sûr on l'aime. Soyez sûr on le perd, y'a la colère dans le cathéter. Pendant partout en France, les gens partent en vacances. On nous dit qu'aux urgences, on n'aura pas cette chance. On veut plus de matériel, adapté à ce bordel. Des draps, des couvertures, des bouteilles d'oxygène. Et des médicaments, en nombre suffisant. Un peu plus qu'une salade à donner aux malades. Ils coupent tous nos moyens, ils disent ça ira bien. Attention, y a urgence, c'est pour nous, ça se passe en France. Entendez notre peine, ce boulot c'est sûr on l'aime. Soyez sûr on le perd, y'a la colère dans le cathéter. Ce qui se passe au CHV, dans les urgences de France, ne peut pas rimer avec rentabilité.
Vous êtes sur Urgence Santé et nous poursuivons notre émission consacrée aux EHPAD avec la situation des Hirondelles. Les Hirondelles étaient un EHPAD implanté au cœur de Dordive, un EHPAD public à taille humaine qui a malheureusement fermé ses portes à la fin de l'année 2024, après une trentaine d'années de service. Cet EHPAD répondait pleinement aux besoins des patients et de leurs familles. Et cette fermeture s'est faite dans la souffrance. Le collectif Santé Est-Loiret était mobilisé aux côtés des familles, des personnels et des élus pour les accompagner. Ce que nous pouvons constater maintenant, après un peu plus d'une année, voire de fermeture, c'est que le manque d'un EHPAD sur le territoire est criant et la population et le territoire ont besoin d'une nouvelle structure. Et c'est ce que vont aussi nous partager les différents témoignages.
Alors, je suis Karine, aide-soignante. Je suis arrivée à l'EHPAD de Dordives-les-Hirondelles en décembre 2009. Je suis arrivée dans cette structure qui était une grande structure qui accueillait 82 résidents. La plupart des résidents, c'était des personnes des environs de Dordives. Nous étions un personnel soigné qui aimait notre travail. On était tous solidaires sur des mêmes projets d'accompagnement de personnes âgées. Avec des difficultés plus ou moins grandes, ça veut dire que de 2009 à 2024, nous avons eu plus de 7 directeurs consécutifs. Donc, une gestion un peu assez difficile. Nous travaillons avec beaucoup de difficultés, des fuites d'eau. Des matins où on arrivait, on n'avait pas d'eau chaude, il fallait faire chauffer des grandes bonbonnes d'eau pour pouvoir pallier aux toilettes des résidents. Suite à beaucoup de problèmes engendrés dans cette EHPAD, nous avons fait des grèves, nous avons fait des mouvements, nous avons fait des appels à l'ARS, au département. Certains travaux ont été faits, mais à moitié, comme la chaufferie. La chaufferie a été remplacée, mais pas les tuyauteries. Donc, on avait toujours le même problème d'eau chaude. Voilà. Et puis, un jour, on apprend sur les journaux la fermeture de la maison de retraite au 31-12-2024. Donc, on a eu une administrateur qui est venue pour cette fermeture de cette EHPAD. Pour nous, le personnel et les résidents, ça a été très violent parce que c'est sur un papier qu'on l'a appris et non verbalement. Et il a fallu qu'on fasse en sorte de retrouver des postes ou de trouver des solutions et pour le personnel et des placements pour les résidents. Ça a été assez dur, aussi bien pour les résidents, très très dur pour les résidents, parce qu'il y a certains résidents qui étaient là depuis pas mal d'années, dont la plus ancienne était de 2005. Et on a essuyé beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de questions au niveau des résidents, des familles aussi. Et puis ben le personnel, où on va aller, ben il y en a certains qui ont fait des démissions du secteur public parce qu'ils trouvaient pas de poste. D'autres ont eu des affectations plus ou moins intéressantes pour elles. Donc c'est bien dommage d'avoir fermé cette structure de 30 ans. Au jour d'aujourd'hui, j'ai encore du mal à m'en remettre. Je pense souvent à mes collègues, aux résidents. Et j'espère, bon, j'ai gardé certains contacts, mais j'espère que de réussir un jour à tourner la passe, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est encore difficile. Je vois certaines collègues, et à elles aussi, c'est encore difficile. On se rappelle de nos souvenirs de travail et de nos résidents. Voilà, donc j'espère que ben, on maintienne quand même ces maisons de retraite qui sont essentielles pour les personnes âgées.
Jean-Marc de Béthune, je suis secrétaire départemental de l'UDIRS. Parler de l'EHPAD de Dordives, c'est une longue histoire quand même. Bon, c'est un EHPAD qui date de 95. À l'époque, c'était ce qu'on appelait le CIVOM de Ferrières, qui est devenu maintenant donc la communauté de communes des quatre vallées. Donc, il s'est avéré qu'à l'époque, il avait été identifié la nécessité d'une maison de retraite, puisqu'on ne parlait pas encore d'EHPAD à ce moment-là. C'est devenu EHPAD en 2002, suite à une nouvelle loi. Et donc, il a été construit là-bas, sur un terrain donné pour 1 euro symbolique au département, la construction d'un EHPAD de 82 places. Cet établissement avait plein d'atouts, quoi. Enfin, il était situé dans pratiquement au cœur de la ville de Dordives, du village de Dordives, là, dans un endroit verdoyant, de plein pied, bien conçu. Moi, je trouve, la façon dont il était conçu, et il avait tout pour réussir. C'est ce qui s'est passé pendant au moins une vingtaine d'années, où ça s'est plutôt bien passé. Avec un taux d'occupation qui était quand même très, très important, c'est ce qui prouve qu'il y avait vraiment une nécessité d'un établissement pour accueillir les personnes âgées dites dépendantes ou en perte d'autonomie, puisque ça a commencé à basculer, ça fait au moins 10 ans, facilement, parce qu'au moment de l'audit qui a été réalisé en 2024 par, si j'ai bonne mémoire, par la Cour des comptes régionales sur l'établissement, il remarquait déjà lui aussi cet audit que l'établissement était en mauvaise situation financière, a commencé à se dégrader il y a 10 ans, au moins 10 ans plus tôt. Cependant, malgré la connaissance que devait avoir l'ARS notamment, mais le département et le responsable aussi, les élus locaux de la communauté de communes et le président du conseil d'administration qui était donc le maire d'Ordive, il n'y a jamais eu vraiment de prise en compte, de prise en charge des problèmes qu'a rencontré cet établissement, hormis ce que l'ARS appelle des CNR, des crédits non renouvelables, c'est-à-dire qu'ils sont octroyés une fois par an pour tenter plus ou moins de boucher les trous dans la trésorerie, et encore c'était partiel. Mais contrairement à ce qu'affirme l'arrêté de fermeture qui a été pris plus tard par l'ARS et le département de l'établissement, jamais ils n'ont eu fait aucune autre intervention, il n'y a jamais eu d'inspection, il n'y a jamais eu de contrôle, il n'y a rien qui a été fait pour permettre de prendre concrètement la mesure des problèmes que traversait l'établissement, et notamment la dégradation petit à petit des locaux, ça c'est très important à savoir, et surtout que le département, depuis 2018 au moins, ou si c'est pas même déjà avant, avec la loi Bien Vieillir dans le Loiret du département, ils avaient pris en compte que les locaux se dégradaient et qu'il fallait absolument que quelque chose soit fait. C'était estimé le montant des travaux à 1 800 000 euros, si j'ai bonne mémoire, mais ils conditionnaient les travaux au fait que l'EHPAD rachète les murs au département. Sauf que l'EHPAD n'avait pas du tout les moyens de racheter les murs, et donc petit à petit, ça a continué à se dégrader. Comme ça, rien n'a pu évoluer, et jusqu'au point où, lors d'une inspection le 14 mars 2024, le temps passe vite, il est sorti de cette inspection qui a été diligentée par l'ARS et le département en même temps, ce qui c'est assez rare qu'ils se déplacent en même temps, et pourtant là ils l'ont fait, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, c'est-à-dire en fait évidemment une situation dégradée, que ce soit au niveau du personnel, au niveau des locaux, et bien sûr avec des risques pour les personnes âgées accueillies, et ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, c'est-à-dire une bonne raison de fermer l'établissement, mais ce qu'ils cherchaient surtout, et ils savaient déjà, c'est que la situation financière de l'établissement était très compromise, puisqu'il avait déjà un déficit de 800 000 euros à ce moment-là, qui avait été identifié, et qu'il était impossible que l'EHPAD à lui tout seul renfloue. Il fallait qu'il y ait des mesures fortes soient prises par l'ARS et le département pour remettre à flot et surtout faire tous les travaux qui étaient nécessaires, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. Et évidemment, il y en avait pour cher des travaux, parce que c'est un établissement de plus qui était une toiture amiantée. Ça coûte toujours très cher, entre autres. C'est une des raisons. Mais même, il y avait plus que ça. Il y avait des fuites dans le toit. Et donc, finalement, ils ont fini par prendre un arrêté de fermeture de l'établissement au 1er juillet, ils ont nommé un administrateur provisoire le 1er juillet 2024 pour 6 mois, qui avait pour mission de fermer l'établissement. Alors, normalement, l'administrateur provisoire, il peut être nommé pour 6 mois renouvelable une fois, c'est-à-dire un an. Il aurait pu être nommé pour tenter de remettre à flot l'établissement, puisque normalement l'administrateur provisoire, c'est leur travail, avant tout, c'est d'essayer de remettre sur pied un établissement. Pour être bien clair là-dessus, le personnel a appris la fermeture de l'établissement par voie de presse. Donc faut se mettre dans la peau quand même, dans la tête de ces gens-là, essentiellement des femmes bien sûr, comme souvent dans le social, qui ont appris ça comme ça a été un coup de massue. Elles ont tenté de se mobiliser, mais ça a été très difficile. Elles ont trouvé du soutien avec le collectif, bien sûr, avec le syndicat Sud Santé, mais le mal était fait. C'est très difficile dans ces cas-là, à partir du moment où un ARS, un département en pluriel, a arrêté de fermeture, d'empêcher qu'il aille à son terme. Ça pose un problème d'ailleurs, parce que dans l'arrêté, il est écrit clairement qu'on peut faire un recours devant gracieux ou un recours administratif. On a 2 mois pour ça, sauf que ça suppose de prendre un avocat et de faire un recours en référé. Il faudrait sans doute que le législateur se penche un peu là-dessus, parce que c'est pas normal qu'on puisse pas discuter davantage d'un arrêté de fermeture comme ça. Il faut faire monter un dossier au tribunal administratif pour contester ça en référé. C'est du travail, il faut trouver des gens compétents et c'est très difficile. Malgré la bonne volonté de tous ceux qui étaient sur place et tout ça, et le soutien qu'il a pu obtenir, le personnel n'a pas évidemment obtenu gain de cause. Il y a toujours quelque chose qui m'étonne dans ces affaires, cette affaire d'EHPAD. C'est ce que je disais un jour à une copine qui m'a répondu, mais tout le monde, les vieux, tout le monde s'en fout. C'est en boutade, bien sûr. Et je disais, mais quand une classe ferme, quand une école ferme, quand une ligne de chemin de fer ferme, oui, quand on ferme une maternité, d'établissements de services publics et tout ça, il y a toujours quand même une assez forte mobilisation des gens du village ou des concernés. Alors que là, sur l'EHPAD, ça a été quand même très, très, très dispersé, on dirait. On n'a pas senti une mobilisation ni du village lui-même, à Dordibes, ni de la communauté, des habitants, malgré les appels, des habitants concernés par la fermeture. La fermeture est allée à son terme, donc au 31 décembre, donc 6 mois plus tard. Et depuis, l'ARS avait lancé un appel à manifestation d'intérêt pour créer une structure avec un établissement qui s'appelle l'EPNAC, qui a été choisi pour ça, pour renforcer et aider au maintien à domicile. C'est une expérimentation, ça c'est tout à fait original, du fait que tout ce qui concerne le maintien à domicile, ou ce qu'on appelle, et là en l'occurrence ça s'appelait aussi ou EHPAD hors les murs, ou EHPAD à domicile, ça suppose, comme ça se fait partout ailleurs sur le territoire français, qu'il existe un EHPAD pivot ou un EHPAD ressource sur lequel s'appuyer pour aider les personnels à aller chez les personnes concernées à domicile. Et c'est comme ça que ça se fait partout en France. C'est y a que sur l'EHPAD, sur la communauté de communes de Dordibes et de Ferrières que ça se fait pas. Ils prétendent, l'ARS et le département, faire mieux que les autres. Eh bien, moi, j'en souhaite bon courage, mais pour l'instant, leur fameux projet d'EHPAD à domicile et tout ça, il est en train de tourner court un peu, hein, l'EPNAC, ils ont l'établissement qui est soi-disant, qui n'est pas du tout expert d'ailleurs à la matière, qui a été choisi. Ils en sont 20 personnes soutenues, paraît-il. Ça fait un an et demi qu'ils sont sur le coup. C'est tout ce qu'ils sont arrivés à faire, c'est soutenir 20 personnes, alors qu'il y avait 82 places dans l'EHPAD, dont 12 places réservées aux personnes atteintes de maladie d'Alzheimer ou apparentées, ce qui était très important. Et maintenir à domicile les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, c'est une gageure. On peut pas les maintenir comme ça jusqu'à la fin de leur jour tout le temps. C'est pas possible. Alors, trouver un autre EHPAD dans ce bassin de vie, c'est très compliqué. Il y a pas d'EHPAD. S'il y a des EHPAD privés, ils sont hors de prix. Et ils sont pas proches, et il n'y a pas d'autres EHPAD. Après, il faut aller courir à Montargis quand il y a de la place, voire aller en Seine-et-Marne, puisque c'est le département voisin. Alors qu'autrefois, c'était, il y a des personnes qui habitaient la Seine-et-Marne qui venaient, qui étaient résidents de l'EHPAD de Dordibes. Maintenant, ce sont des gens de Dordibes qui vont dans les EHPAD publics de Seine-et-Marne. C'est une absurdité. On en marche sur la tête, quoi. C'est pas la politique des ARS là-dessus, elle tient pas à debout, quoi. Malheureusement, l'EHPAD de Dordibes n'est pas un cas à part de la mauvaise santé des EHPAD en français. Ça, c'est une évidence. Alors, que faire pour l'EHPAD de Dordibes pour tenter de retrouver un établissement qui puisse être à la fois, pourquoi pas, un EHPAD, un tiers-lieu, ou avec de l'habitat inclusif, en fait, peu importe, c'est l'éco-quartier même, puisque c'est de ça que parle M. Jean Berthaud, le maire de Dordive. Il y a peut-être une piste à explorer, ce sont les crédits mis à disposition par la Caisse des dépôts et consignations qui a débloqué sur 5 ans, jusqu'en 2030, 25 milliards d'euros pour aider justement à tous les établissements, pas seulement les EHPAD, mais aussi d'autres types d'établissements, à continuer à vivre dans des bonnes conditions. Sur ces 25 milliards d'euros, 6 milliards d'euros ont déjà été mobilisés en 2025. Il y a un communiqué de presse de la Caisse des dépôts et consignations qui fait état de tout ce qu'elle a réalisé, ou enfin, de manière globale, pas dans le détail, mais on se dit que pourquoi la Caisse des dépôts et consignations ne pourrait-elle pas elle aussi aider à tout du moins à rénover les locaux et réhabiliter les locaux de l'EHPAD de Dordive qui sont toujours debout, qui sont chauffés, qui sont surveillés pour pas qu'il y ait de piraterie, les ubexeurs, des gens qui visitent tout cela. En tout état de cause, la Caisse des dépôts, dans ce qu'elle explique, elle peut intervenir aussi dans ce type de situation.
Nouvelle année, nouvelle audace, n'attendons pas que cela passe. Unis, toujours prêts à clamer pour notre hôpital, notre santé. Souvenez-vous, il y a peu, nous avons dû marcher encore sous les lumières multicolores. Pour nous, ce n'était pas un jeu. Et quoi qu'aient pu en dire certains, se dire bien exaspéré, défiler pour revendiquer, ce n'est pas vraiment anodin. Nouvelle année, nouvelle audace, n'attendons pas que cela passe. Unis, toujours prêts à clamer pour notre hôpital, notre santé. Exiger rien d'autre que le droit à une médecine de qualité, à l'accès aux soins au plus près, sans qu'on nous barre jamais la voie. Tous les soignants sont épuisés, un à un ils quittent le navire, craignant que le bateau chavire et emporte au fond leur santé. Nouvelle année, nouvelle audace, n'attendons pas que cela passe. Unis, toujours prêts à clamer pour notre hôpital, notre santé. Rien n'est possible sans unité, sans détermination ni force. Même s'il faut prendre quelques bosses, sans toujours les avoir cherchés. Rien n'est vraiment jamais gagné, mille fois l'ouvrage sera remis. Sur le travail sans oubli, avec foi et ténacité. Nouvelle année, nouvelle audace, n'attendons pas que cela passe. Unis, toujours prêts à clamer pour notre hôpital, notre santé. Depuis maintenant 8 années, il fallait avoir de l'audace, au lieu d'attendre que cela passe, pour se lever et s'opposer à la fermeture de la chire, à celle de la maternité. On nous a imposé le pire, mais nous avons su résister. Nouvelle année, nouvelle audace, n'attendons pas que cela passe. Unis, toujours prêts à clamer pour notre hôpital.
Nous reprenons à présent les entretiens dans le cadre de notre émission sur les EHPAD avec Michel Arand, maire de Préfontaine et aussi aidant familial.
Bonjour, nous sommes avec Michel Arand, maire de la petite commune rurale de Préfontaine, dans le Loiret. Voilà, Préfontaine est une commune qui est située dans le nord-est du département, à peu près 18 km de Montargis, au sein de la communauté de communes des Quatre Vallées. Voilà, une commune de environ 500 habitants, voilà, quelques âmes près. Voilà, et donc nous sommes avec Michel Arand pour pouvoir évoquer l'histoire, ou en tout cas le sujet de l'EHPAD de l'Hirondelle d'Ordive, donc autre commune située à une dizaine de kilomètres à peu près hein, de Préfontaine. Voilà, une EHPAD qui a donc fermé en fin d'année 2024 et qui a laissé dans le désarroi les élus et la population. Voilà, je vous laisse la parole, monsieur Arand.
Merci. Merci beaucoup. Donc, oui, en effet, je tenais à participer à cette émission pour dire mon ressenti par rapport à cette fermeture d'EHPAD qui a plongé la CC4V dans un no man's land pour nos aînés. Et j'avoue que j'ai commencé à m'y intéresser également en 2024. J'ai commencé à m'y intéresser en 2024 quand la fermeture était imminente. Il y avait des rumeurs de fermeture suite à une mauvaise gestion apparemment, mais j'ai vu que le département et puis l'ARS faisaient pas grand-chose par rapport à ça. Et on a nommé un nouvel administrateur, mais c'était trop tard quand ils l'ont fait. Donc ce qui devait arriver est arrivé, c'était pas d'affirmer. C'est bien malheureux. Je l'ai connu, moi, puisque mes parents, ils sont allés tous les deux, ma mère et mon père, il y a 13 ans. Et c'était un EHPAD où il y avait du personnel qui était content d'y travailler. Je connaissais beaucoup de monde dans cet EHPAD. Malheureusement, il a fermé. Donc, c'est bien dommage parce qu'on n'en a pas d'autres sur la CC4V. D'ailleurs, je crois qu'on est la seule communauté de communes à ne pas avoir d'EHPAD. Et visiblement, pas grand monde a l'air de s'en intéresser, puisque j'ai fait partie d'un groupe à être monté. Nous avons été reçus par le ministre de la Santé, qui nous a pas reçus d'ailleurs, qui nous a envoyé ses sbires, et qui nous ont écoutés pendant une heure et demie parler de ces problèmes de fermeture d'EHPAD. Et on leur précisait bien que le département et l'ARS n'étaient pas chauds pour le refaire. Et bilan du compte, trois semaines après, on a reçu un courrier du ministère qui nous a dit on a remis le dossier à l'ARS. Donc, belle avancée, retour en marche arrière, ça ne servait à rien du tout, quoi. Donc, par la suite, on a été reçu il y a quelques temps à l'ARS, est venu dans notre communauté de communes avec des représentants du département, le président n'était pas là, et on a vu qu'il n'y avait pas moyen de discuter avec eux. La directrice de l'ARS était d'ailleurs assez dure dans ses propos vis-à-vis de certaines personnes. Et nous avons pris la décision unanimement, les 19 maires de la CC4V, de quitter cette réunion, de sortir. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas eu d'autres nouvelles. On vient d'élire le nouveau président de la CC4V il y a 8 jours. Et lorsqu'il a émis sa proposition de redevenir président, je lui ai posé la question quelles étaient ses intentions pour l'EHPAD, puisqu'il n'en parlait pas dans ses projets pour sa mandature. Et il a dit qu'il allait faire le nécessaire avec nous pour pouvoir essayer de retrouver un EHPAD. Bon. Oui, je crois qu'il va falloir qu'on se débrouille quelques maires pour essayer de faire quelque chose si on veut vraiment que ça réussisse.
Merci, monsieur Arand. Voilà, du coup, on peut enchaîner sur un autre sujet qui vous est plus personnel, puisque vous êtes vous-même aidant familial, oui, vous occupez de votre mère, je crois.
Belle-mère.
De votre belle-mère, pardon. Et donc, est-ce que vous pouvez, de manière très concrète, nous dire aujourd'hui ce que signifie prendre en charge, en tout cas accompagner une personne âgée dépendante, et les difficultés et les solutions peut-être que vous avez trouvées et les difficultés que cela vous pose?
Oui, en effet, j'ai reçu, ça va faire maintenant depuis trois semaines, ma belle-mère, qui a 97 ans, qui ne parle pratiquement plus, qui marche très très peu. Donc c'est pas une situation facile. Donc elle ne voulait pas aller en EHPAD. Donc c'est pour ça qu'on la reçoit chez nous. Malheureusement, il y a un moment où je crois que étant aidant familial, on a des possibilités d'aider les personnes âgées, mais arrivera un moment où ça sera plus possible. Et quand c'est plus possible, à part l'EHPAD, il n'y a pas d'autres possibilités. Parce que la gériatrie à l'hôpital, c'est bien, mais c'est pas une solution. C'est malheureusement les fins de vie. L'EHPAD permet encore de pouvoir vivre encore un petit peu, mais voilà, le problème de l'EHPAD va se poser à un moment ou à un autre, mais quand on n'en a pas dans son secteur, c'est difficile parce que ça veut dire qu'il va falloir l'emmener plus loin. Donc, elle sera à au minimum 15 si c'est sur Montargis, ou voire plus. Je connais des gens qui font 40 kilomètres, puisqu'il y en a qui ont envoyé leurs aînés sur Bellegarde, Pithiviers. C'est une catastrophe, quoi. Ça permet pas d'aller les voir tous les jours, et c'est justement ça qui doit déchirer des familles souvent. Pour l'instant, je peux l'avoir à la maison. Pas facile non plus d'être aidé. Ma femme s'est arraché les cheveux pendant deux semaines pour essayer de trouver quelqu'un. Tous les organismes qui peuvent aider sont complets pratiquement, donc ils peuvent pas prendre plus de personnes. Et là, on a trouvé un organisme.
Monsieur Arange, j'ai envie de vous poser une question. Face aux arguments qui sont donnés par les collectivités locales, le département et par l'État, sur le fait que finalement, il n'y a plus d'argent pour pouvoir construire des EHPAD, qu'est-ce que vous répondriez ?
Oui, c'est vrai, il n'y a plus d'argent. Mais on se demande bien où il est passé l'argent. Enfin, il est bien passé quelque part. C'est malheureux parce qu'il y a des tas de projets qui partent, qui coûtent des fortunes et puis qui tombent à l'eau. Nous-mêmes, à CC4V, on a des fois des projets où on prend des bureaux d'études et puis ça se termine. Donc, c'est désolant, quoi, qu'on ne trouve pas le moyen de mettre un petit peu d'argent pour... on n'est pas obligé de construire des EHPAD de 200 places, 300 places. On pourrait faire des petites structures. On a 18 000 personnes à CC4V qui habitent. Si on avait deux EHPAD de 40 places, ne serait-ce que cela, ça serait largement suffisant. Et à condition qu'on les réserve pour les gens de la CC4V, quoi. C'est pareil, chaque communauté de communes peut prendre. Je sais que les Hirondelles, il était occupé à 75% par la région parisienne, je crois. Donc, après, il n'y avait plus de place pour les gens d'ici. C'est dommage. Mais encore faut-il que nos élus, les grands élus, aient la volonté de faire quelque chose, quoi. Donc, je ne sais pas avec quel moyen il va falloir se battre pour qu'ils nous construisent des EHPAD. C'est pas gagné d'avance.
Eh bien voilà, on arrive tranquillement mais sûrement à la fin de ce premier rendez-vous de Urgence Santé, une émission coproduite par C2L Radio et Radio Fréquence Paris Pluriel. Magali, Guillaume, merci. Un petit mot pour conclure quand même cette émission, ce premier rendez-vous.
Alors par rapport à l'EHPAD des Hirondelles, j'ai envie de dire que on ne peut pas rester face à ce constat et ce sentiment d'impuissance, surtout que l'ensemble des élus de la communauté de communes des Quatre Vallées est mobilisé pour qu'on puisse trouver une solution pérenne pour nos aînés et la population aussi, puisqu'on a quand même une pétition qui a recueilli plus de 3000 signataires. Donc la population est aussi mobilisée. Donc il faut qu'on trouve une solution et le collectif Santé Est-Loiret est mobilisé aux côtés des élus de la population pour monter un dossier, quoi, pour qu'on puisse accueillir dignement nos aînés dans le territoire des Quatre Vallées, dans l'Est-Loiret.
Voilà, donc on peut dire que ce n'est pas terminé. Le combat perdure.
Loin de là, effectivement.
Guillaume, petit mot de la fin pour ce premier rendez-vous.
Mais écoutez, ces reportages nous ont montré que partout... des luttes, même des micro-luttes et des mobilisations s'organisent. Elles sont malheureusement peu visibles, en tout cas peu connues au plan national. Notre coordination essaye, au travers de son bulletin hebdomadaire, de rendre compte de ces événements. Alors, je voudrais juste profiter, puisque aussi en conclusion, pour donner d'autres illustrations, profiter pour apporter notre chaleureux soutien aussi en particulier au personnel de l'EHPAD des Feuillants à Poitiers, qui est en grève depuis plus de 6 semaines. Mouvement très dur, la direction n'a pas répondu jusqu'alors, pour faire en sorte que les agents aient de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Dans cet établissement, une aide-soignante expliquait qu'en fin de carrière, elle avait un salaire de 1 600 euros, hein, prime Ségur inclus. Voilà, donc voilà ce qu'on propose aujourd'hui au personnel, ces premiers de cordée hein, qu'on félicitait il y a quelques années. Voilà les salaires qu'on accorde à ces personnels et c'est tout à fait scandaleux et indigent. Et puis un autre mot de soutien aussi et de solidarité à l'égard des personnels de l'EHPAD de l'Orangerie à Saint-Maurice-de-Lignon, voilà, qui aussi sont en grève pour revendiquer aussi de meilleures conditions de travail après la restructuration de l'établissement et des baisses importantes d'effectifs qui impactent leur quotidien et les placent en situation de grande souffrance. Avec notamment une question qui est assez récurrente dans ces établissements, c'est le passage aux 12 heures, hein, qui est souvent généralisé et qui entraîne des organisations extrêmement fatigantes pour les soignants et pour les personnels. Donc, en finale, un mot d'espoir pour dire que ces luttes sont très utiles et qu'elles amènent aussi des victoires. Les reportages nous ont montré à Mayenne, hein, où le comité a réussi à faire avancer l'idée de reconstruction d'un nouvel EHPAD, ou à Château-Thierry, où des collectifs de parents et d'usagers ont aussi fait en sorte de pouvoir freiner l'augmentation des tarifs. Donc ce sont des petites victoires, des victoires sans doute fragiles, mais sur lesquelles il faut capitaliser et sur lesquelles il faut continuer de se mobiliser et d'agir ensemble.
Eh bien Guillaume, Magali, merci. On rappelle Urgence Santé, c'est une émission proposée par la Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité et on se donne rendez-vous prochainement pour un nouveau sujet donc dans Urgence Santé. Merci.
Du sud de l'Orne aux Marches bretonnes, l'hôpital couvre un territoire de plus de 100 000 personnes qui ont besoin de croire. Un accès aux soins partout, pour tous sans discrimination, sans palabre ni supplication. Oui, le droit pour unique à tout, c'est un besoin incontournable.